Peut-être, enfin, je ne sais pas si on vit chacun avec cette pensée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous voyez, aujourd'hui, il fait beau. Peut-être que dans 2 minutes, tout va s'assombrir. On entendra des trompettes. Il y en a quelques-uns parmi nous qui s'en iront et d'autres resteront. C'est ce que la parole nous dit. Est-ce qu'on y pense tous les jours à ça? Et j'aimerais un peu continuer dans la présentation, parce que ça a été dit pendant toute la présentation. Le Seigneur m'a emmené cette semaine à penser à notre foi de tous les jours. On est chrétien, d'accord, on sait que Jésus-Christ a tout accompli, et Emmanuel a dit quelque chose ce matin, c'est que on a une responsabilité. Alors, est-ce que je vis aujourd'hui dans une foi active? Vous savez, pas le chrétien qui est assis sur une chaise dans une église en disant « ben voilà, je suis sauvé, tout va très bien ». Mais est-ce que je vis avec cet amour pour mes frères et sœurs? Avec cet amour pour mon voisin, pour les gens de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Avec cette envie d'être une lumière dans les ténèbres. Parce que peut-être le soleil brille, c'est vrai, on a l'impression, c'est lumineux, c'est magnifique. Mais ô combien c'est ténébreux. Combien ce monde est ténébreux. Et nous, on vit au milieu de ce monde. Alors j'aimerais vous emmener dans le deuxième épître de Pierre. L'épître de Pierre peut être intitulé « Le conflit du croyant dans les derniers jours ». En fait, quand l'épître se concentre surtout sur la façon de se conduire au milieu des problèmes, au milieu de ce monde, au milieu de tout ce qui se passe, comment on se conduit. Est-ce qu'on est perplexe? Est-ce qu'on y pense? Il y a plein de faux docteurs, des gens, vous allez sur Internet, vous allez entendre de tout. Mais si vous êtes au fait de la parole de Dieu, ça va vous horrifier, parce que si on n'est pas sensible, si on n'a pas la voix de l'Esprit qui nous dit « attention, ce message n'est pas pour toi », on part dans des choses complètement futiles, complètement l'opposé de la parole de Dieu. Donc on a à faire attention, et si on prend par exemple 2 Pierre chapitre 3 versets 11 et 12, il dit quelque chose, il dit plusieurs choses dont une qui est essentielle. Il pose comme une question: puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Alors, est-ce qu'on vit comme les gens du monde? Ou est-ce qu'on vit une foi active? En fait, compte ici, le contexte, c'est que Pierre a devant lui des croyants qui sont troublés par les moqueries des gens qui l'entourent, des juifs. Ils ont des doutes, et ils ont particulièrement un doute, c'est la lenteur apparente du retour du Seigneur. On nous a dit qu'il allait revenir, il n'est toujours pas revenu. Alors nous, aujourd'hui, au bout de 2000 ans, qu'est-ce qu'on devrait dire? Plus de 2000 ans, oui. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Et c'est comme ça qu'on mesure notre foi, en fin de compte. On attend, voilà. On sait que ça doit arriver et on attend. Alors il pose une question aux gens qu'il a devant lui, mais cette question nous attend, en fin de compte, aujourd'hui, chacun. Puisque tout cela doit se dissoudre, quelle vie tu dois mener, à ton avis? attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Alors j'ai ressorti trois appels essentiels de ce texte. Le premier, c'est regarder le monde avec lucidité, être conscient de l'état du monde. Le deuxième, marcher dans une sainteté incarnée. Et le troisième point, c'est attendre activement le retour du Seigneur. Vous savez qu'au début de ma conversion, quand je lisais ces textes, j'y comprenais absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Regardez le monde avec lucidité. Là, on va prendre les deux versets avant. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embraseraient, se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et là, c'est le verset qui nous concerne. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Pierre, en fin de compte, rappelle une chose. C'est que le monde dans lequel on vit n'est pas éternel. Il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». On ne va même pas le voir arriver. On peut être assis comme maintenant, et boum, c'est la fin des temps. Alors, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce jour-là vaut mieux être en Christ. Je vous le dis tout de suite. Vaut mieux être en Christ. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que tout ce qu'on voit ici, ça va se dissoudre. Ça n'existera plus. On pourrait penser que le message que donne Pierre est un message qui fait peur. Mais en fait, compte, c'est d'une réalité spirituelle incroyable. Toute la Bible en parle. Si je prends par exemple en 1 Jean, chapitre 2, verset 17, Jean dit « Et le monde passe et sa convoitise au sous. » Tout ce qu'il y a dans ce monde, toutes les envies des hommes, tout ce que l'homme a convoité, tout va passer. Les belles voitures, les belles situations, les belles maisons, tout va passer. Et la deuxième chose qui est très importante, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui obéit à la parole de Dieu demeure éternellement. Donc ça veut dire qu'on ne doit absolument pas tremper dans les choses de ce monde. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va se dissoudre avec ce monde. On ne peut pas perdre son salut. Ça, je vous le garantis. Mais on peut perdre sa couronne. On peut perdre sa récompense. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le gradin dans les premiers, vous êtes tout au fond. Jésus a dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Vous pouvez vous retrouver dans la cave, au lieu d'être au grenier. En Hébreux, chapitre 13, verset 14, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Est-ce qu'on en a conscience? Il y en a deux ici qui pourraient en parler, ils font que ça, ils bougent. Voilà. Daniel et Brigitte, ils n'ont pas de ville. Ils sont pèlerins, voilà, un jour ils sont là. Le lendemain, le Seigneur les appelle ailleurs. Ils vont ailleurs. Mais c'est ça notre vie, en fin de compte. Ah, moi, j'aime ma petite ville. J'aime ma petite maison. Mais imagine si tu as un incendie, que tu n'as plus de maison, tu vas faire quoi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, ce monde, on y est. Parce que bien sûr, on y vit. Mais ce monde, on n'a rien à y faire. On est pèlerin. Le Seigneur peut nous dire demain, ben écoute, maintenant je t'envoie au Kerguelen. Bon, bon courage. Hein. À part tâter du pingouin, c'est tout ce que vous allez faire. Matthieu 6, versets 19 et 20. Encore une réalité. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il y a des gens qui achètent des voitures à des prix monstrueux. Moi, j'ai un ami qui avait acheté une voiture. Quand il m'a dit le prix, je suis tombé par terre. C'est le prix d'une maison. 150 000 euros. Quand vous savez que vous pouvez tomber sur un fou qui va vous l'exploser, ça sert à quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Tout ce qu'on a aujourd'hui, nos belles maisons, nos belles voitures, nos belles situations, c'est appelé à disparaître du jour au lendemain. Il y a des gens qui avaient une belle situation, du jour au lendemain, chômage, l'usine a arrêté. Quand on voit les usines Roquette, mais quand on disait à quelqu'un, je me rappelle, il y a 30 ans, vous disiez à quelqu'un, ah ben moi je suis rentré chez l'usine Roquette, oh, c'est comme si on disait, ben voilà, moi je suis ministre. Le gars, il avait un salaire garanti. Il savait qu'il allait mourir, enfin, il irait jusqu'à sa retraite. Regardez aujourd'hui. Le monde passe. Quand vous étiez gamin, quand vous étiez sur le bord de la plage, vous avez tous été comme moi. On a construit des magnifiques châteaux de sable, même qu'on avait l'impression qu'ils allaient résister à tout, tellement ils étaient beaux et costauds. La marée est arrivée. Tout est parti. Alors on pourrait penser, oui, ben, c'est une injustice, mon château était aussi beau. Mais non, c'est la nature du sable. Et la puissance de la marée qui fait que vous avez beau faire ce que vous voulez, ça va disparaître. En fait, Côte-Pierre nous dit ici, ne construisez pas votre vie comme si la marée n'existait pas. Ne construisez pas votre vie comme si Jésus n'allait pas revenir, comme si votre vie n'allait pas s'arrêter. Est-ce que vous êtes sûr d'être encore là demain? Personne n'est sûr. Personne n'est sûr. Et vous avez des gens qui vivent, qui s'occupent de tout, sauf de leur foi. Le monde et l'esprit qui est dans ce monde va disparaître. Mais vous qui êtes en Christ, vous allez vivre éternellement. Et vivre dans ce monde sans foi en Dieu, en fin de compte, c'est vivre continuellement en étant attiré vers le bas. Alors que Dieu nous appelle à être attirés vers le haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Les plaisirs du monde ou la foi véritable en Dieu? À quoi on est accroché aujourd'hui? Est-ce qu'on est lucide? Est-ce qu'on a cette lucidité spirituelle qui nous pousse à mener une vie en adéquation avec ce qu'on déclare être des enfants de Dieu? Ou est-ce que ma vie est... Je me suis fait baptiser, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on a fait du soufre si fragile que Dieu nous a donné? Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on le met à profit pour aider notre frère, notre sœur? Ou on suit les futilités du monde? En psaume 144, verset 4, il est dit: l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. 80 ans ou 90 ans sur l'éternité, ça fait beaucoup à votre avis? Donc on a 90 ans pour préparer l'éternité. Quel est le fondement de notre vie en fin de compte? Si on avait par exemple à faire le point de notre vie maintenant, voilà, on fait le point de sa vie. Qu'est-ce qui resterait de positif? Qu'est-ce qui resterait de positif? Le deuxième point, c'est marcher dans une sainteté incarnée. En 2 Pierre 3, 11, toujours les versets que j'ai lus au début, Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété ? Ce n'est pas une question, hein. C'est une exhortation. C'est Pierre dit, puisque ces choses disparaîtront, quelle vie devez-vous mener à votre avis ? Une vie sainte, pieuse, cohérente avec l'espérance chrétienne. On a une espérance. C'est celle de se retrouver avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, en fin de compte, la sainteté qu'on doit avoir, ce n'est pas du tout une théorie. C'est une manière de vivre. On ne peut pas prétendre être chrétien et puis vivre à côté une vie complètement dissolue. C'est pas possible. C'est impossible. Si aujourd'hui vous me voyez faire le message et la semaine suivante vous me voyez traverser Merville de bistrot en bistrot, vous allez vous dire, je crois qu'il y a un petit souci. Ou alors, lorsque vous allez m'appeler parce que vous avez un souci, je vais dire, bah, fais comme moi, débrouille-toi. Ça serait dur quand même, non ? Gloire à Dieu, le Seigneur m'a pas donné justement cette chose. Donc je vous dis, en 1 Pierre par exemple, chapitre 1, versets 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est Jésus-Christ qui nous a appelés. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voyez, vous aussi soyez saints que le dimanche matin quand vous êtes à l'église. C'est pas ça qui est dit. Dans toute votre conduite, quel que soit le temps et le moment. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On doit être à l'image de Christ, en fin de compte. En Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce qu'on vit en étant, on a eu en vivant cette transformation en nous ? Est-ce qu'on vit cette vie nouvelle qui nous a été donnée ? Et qui nous fait que on ne se conforme pas au monde ? Vous savez, quand on regarde tout ce qui est mis en place, là, la loi sur l'euthanasie qui va être mise en place, on va être le pays d'Europe le plus permissif pour cette loi. Vous imaginez ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Est-ce que notre intelligence a été renouvelée ? Ou est-ce qu'on suit bêtement le monde ? En sachant que ce que Dieu a prévu dans sa parole, tout ce qui est récit eschatologique de la fin des temps, vont se passer comme il a dit. Mais si vous savez comment ça va se passer, les femmes s'enflammeront pour les femmes, les hommes s'enflammeront pour les hommes, les enfants insulteront leurs parents et ainsi de suite, les gens vont être hautains, amoureux de l'argent. On entre dans une ère où, quand vous allez dire que quelque chose est bien, on va vous dire, c'est faux. Vous allez dire à un enfant, par exemple, voler des bonbons, c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui vous dit, mais il ne faut pas lui dire ça, non, c'est normal maintenant. Tout le monde le fait. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit une fois dans une prédication. Tout le monde le fait. Tout ce qui concerne, vous savez, la pédophilie, vous allez voir. Il y a 20 ans, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, il y a 20 ans, les gens allaient directement en prison. Maintenant, ils ont du sursis avec une obligation de soins. Et puis, dans quelques temps, on va dire, écoutez, je pense que cette personne est malade, faut la soigner. Comprenez bien, il faut la soigner. on aura passé une étape supérieure. Mais tout va bien dans ce monde. Et nous, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour vivre dans ce monde, en étant d'accord avec ce monde. Mais il nous a transformé notre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pas pour nous, hein, mais pour le Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 15, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Quand on voit quand elle a été écrite, quand ce livre était écrit, Philippiens, et maintenant, on est exactement dedans. Exactement. On doit être irréprochable et pur des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et ça, c'est important, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux. Quelle est l'intensité de notre lumière aujourd'hui ? La lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Est-ce que vous avez déjà eu en possession un parfum puissant dans votre main ? Est-ce que vous avez déjà mis un parfum puissant ? Imaginez, vous arrivez, vous entrez dans la pièce avec ce parfum puissant. Qu'est-ce qui va arriver ? Ça va être incroyable. Les gens de l'autre côté de la pièce vont sentir le parfum. Pourtant, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez rien fait, mais le parfum s'est répandu dans la pièce. Parce que le parfum est puissant. En fait, compte, la sainteté, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est votre présence accompagnée de l'Esprit de Dieu qui va faire que tout va se voir, tout va se sentir, la présence de Dieu va se voir, la présence de Dieu va se sentir dans vos paroles de paix, dans vos réactions. Vous n'avez plus des réactions de colère, mais des réactions d'amour. Vous avez une certaine façon d'aimer les gens. Vous avez surtout cette facilité de pardonner. En fin de compte, quand vous entrez dans la pièce, est-ce que quelqu'un vous dit au parfum que vous avez en vous, « Vas-y, répands-toi dans la pièce. » Mais non, il le fait naturellement. Toutes ces choses qui sont en vous naturelles, qui sont prodiguées par l'Esprit de Dieu qui vous habite, se répandent vers les autres. C'est ce qu'on est appelé chacun à être dans ce monde. C'est ce qui doit émaner, cette sainteté doit émaner de notre cœur et rien d'autre. Si vous avez quelque chose aujourd'hui contre votre frère, réglez-le le plus vite possible. Le plus vite possible. Le troisième et dernier point, c'est attendre et hâter le retour du Seigneur. C'est ça que j'avais jamais compris, moi. Mais je me suis dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprenais pas du tout ce verset. Tandis que vous attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. En fait, compte, Pierre relie directement notre sainteté ou la sanctification au fait de hâter le jour du Seigneur. Une vie purifiée, consacrée, aligné à la volonté de Dieu, prépare le règne, le nouveau royaume qui arrive. Et pour cela, en fin de compte, Pierre utilise deux verbes puissants. Attendre. Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Il faut avoir une foi active. C'est pas une attente passive, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous êtes assis sur une chaise de l'église, vous attendez en vous disant les mains sur le ventre, je suis baptisé, tout va bien. C'est pas ça. C'est une attente confiante. Vous avez confiance en celui qui vous a sauvé. Vous avez cette attente joyeuse parce que vous savez que vous faites partie du voyage. En fin de compte, vous savez que toutes ces choses vous ramènent à lui directement. Et ça devient une espérance, votre espérance. Vous savez, ce fameux cri « Maranatha », c'est ça. Hâter. Comment hâter le jour du Seigneur ? C'est là où on se pose la question, on se dit « mais moi je ne peux rien hâter du tout, moi je dirige rien du tout, je dirige rien ». Et pourtant, c'est faux. On peut hâter le jour du Seigneur par notre façon de vivre, l'exemple qu'on donne, l'exemple, notre façon de prier. Est-ce que je prie pour mes voisins ? Est-ce que quand un voisin me parle, qu'il a des problèmes, je dis « Attends, je vais prier pour toi ». Vous savez, quand vous faites ça, moi j'ai toujours été surpris, c'est voir la réaction des gens. Des fois, c'est peut-être on peut se dire, c'est un petit peu nous qui devrions être gênés de poser la question. Eh bien non, c'est les gens qui sont gênés parce que vous leur posez la question. Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Ils sont gênés de dire oui. Comme si ça va leur arracher un bras. Et c'est surtout le fait de témoigner les choses que l'on vit avec Dieu. Alors là, j'aimais quelque chose. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur ? Ah, c'est une grande question. Parce que tu ne peux témoigner du Seigneur que si tu connais réellement le Seigneur. Si tu connais le Seigneur que par la parole de Dieu, ça va, c'est déjà bien. Si, par exemple, au début de notre relation avec mon épouse, j'avais juste communiqué par téléphone ou par lettre, est-ce que vous pensez que j'aurais pu faire d'elle un bon témoignage ? Non. Ben non. Il faut avoir cette intimité avec la personne. Il faut avoir ces longues conversations avec la personne pour pouvoir, j'irai quelque part, forger une image, forger vraiment la réalité de la personne que j'ai devant moi. Donc il faut vraiment connaître parfaitement le Seigneur pour témoigner de lui. Et la puissance du témoignage sera vraiment forte, je vais dire la plus puissante, que si vous connaissez réellement Jésus-Christ. Si quelqu'un vous pose un jour la question, mais parle-moi de Jésus-Christ. Si vous commencez à dire oui, c'est un homme, en fin de compte c'est Dieu, en fin de compte, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu, et puis il y a eu des problèmes avec les Juifs, et puis les Juifs ne l'aimaient pas, ils l'ont cloué sur la croix. Parle-moi de Jésus-Christ. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est mort pour toi. Il est mort parce que tu étais condamné. Il est mort parce que un jour, il t'a regardé. Arrêtez les bêtises. J'étais pas né. Il te connaissait avant que tu étais né. Et il savait pourquoi il allait à la croix. Il allait à la croix pour toi. La différence, elle est où ? Il y a l'amour derrière. Vous comprenez la différence ? Il y a l'amour. On ne peut témoigner de Jésus-Christ que si on aime Jésus-Christ. Tout le reste, ça sera superficiel. Dire à quelqu'un, oui, je peux l'inonder de versets. Qu'est-ce qu'il s'en fiche ? Mais s'il voit quelqu'un parler de Jésus-Christ de cette façon-là, il va être touché. parce qu'il sait que Jésus-Christ lui dise « Moi, je t'aime aussi. » Et c'est pour ça que notre attente ici doit être comme ça dans le monde de tous les jours. On doit être naturellement l'image de Jésus-Christ. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous imaginez la responsabilité ? Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, les ambassadeurs de Christ. Qui c'est qui fait du jardin ici ? Je pense que Daniel et Brigitte pourront nous répondre. En fin de compte, le jardinier ne décide absolument pas de la date du printemps. Ça me fait rigoler, on met une date, le printemps, voilà, c'est à telle date. Oui, c'est sûr qu'on dit avec la Terre, voilà, elle est de telle manière par rapport à la Lune. Bref. En fin de compte, le jardinier ne décide absolument pas de la date du printemps. Il prépare la terre, il retourne le sol, il enlève les pierres, éventuellement les cailloux, il plante, il arrose. En fin de compte, il ne fait pas venir le printemps, mais il hâte la floraison et la pousse des légumes. En fin de compte, la vie chrétienne qu'on doit avoir sur cette terre, ça doit être celle-ci, c'est qu'on prépare le terrain pour le royaume de Dieu. On a chacun cette responsabilité. Vous êtes, et on vous l'a dit encore ce matin, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez cette magnifique étiquette où c'est marqué enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers de Jésus-Christ. Donc on prépare comment ? En aimant les gens autour de nous, en servant les gens autour de nous, même si ça nous coûte, en priant pour les gens autour de nous, en annonçant l'évangile aux gens autour de nous, et surtout en vivant comme des enfants de lumière, l'exemple. Posez-vous la question, moi je me rappelle qui m'avait posé cette question qui m'avait, mais alors ça m'avait trotté, mais j'ai dit, mais il a tellement raison. Comment fait un muet pour annoncer la parole de Dieu ? C'est son comportement, c'est son témoignage tout simplement. Il ne va pas donner des versets, il ne va pas expliquer pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est son comportement. Il va montrer que Christ est en lui. On n'est pas spectateur de l'histoire de Jésus-Christ. J'espère que vous en êtes conscient. On est participant. On est comme le parfum. Tout en nous doit témoigner de Jésus-Christ. Alors en conclusion, on doit avoir une vie tournée vers l'avenir et pas vers le passé. Les si j'avais su, il faut arrêter. C'est vers l'avenir. À quoi je m'attends aujourd'hui ? Pierre, en fin de compte, dans ce texte, nous appelle à vivre une perspective éternelle. Voilà, vous êtes appelés chacun à vivre à l'éternité. Ne pas nous laisser absorber par ce monde, par ce qui est éphémère, par les convoitises. Et ne jamais oublier que ce monde dans lequel on vit. On n'y est pas habitant, mais pèlerin. Parce que Dieu peut très bien nous appeler demain à aller ailleurs. En 1 Pierre chapitre 1, verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Nous devons, en fin de compte, respirer l'espérance du retour de Jésus-Christ. Vivre dans l'attente active, c'est en fin de compte ces trois points. Regarder le monde avec lucidité. Dire que, bah oui, ce monde est pourri, on va le dire. On va employer les mots du monde. Ce monde est pourri. On ne peut rien en retirer. Les gens actuellement, quand vous les regardez, ils se débattent dans ce monde. Il y a toujours ces problèmes de guerre, Je sais que la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait actuellement plus d'un million de morts. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais suffi comme exemple à l'homme. Le deuxième point, marcher dans une sainteté incarnée. Ce n'est pas le fait seulement d'être ici à l'église, c'est dans tout notre quotidien. Comment je montre aux gens que Jésus-Christ est dans mon cœur? Et le troisième point, c'est attendre et hâter le retour du Seigneur. En fin de compte, le monde passe, mais le Dieu demeure. Il y a des gens qui le combattent, mais Dieu existe toujours. Et il existera toujours. Mais les gens qui sont contre lui, eux, vont disparaître. Les choses invisibles, les choses visibles vont passer, mais le royaume de Dieu va venir. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. Elle éclaire nos vies et nous rappelle ce qui demeure quand tout passe. Seigneur, tu nous appelles à regarder ce monde avec lucidité, pas pour nous effrayer, mais pour nous libérer de ce qui a un poids éternel. Donne-nous un cœur sage, capable de discerner ce qui compte vraiment. Apprends-nous à marcher dans une sainteté incarnée. Quand nos paroles, nos pensées, nos gestes, nos choix reflètent ta présence en nous. Seigneur, que nos vies soient comme un parfum qui témoigne de ton amour, de ta paix, de ta lumière. Transforme-nous par ton esprit, afin que nous soyons des témoins crédibles de ton royaume. Seigneur, nous voulons aussi attendre ton retour avec une espérance vivante, non pas une attente passive, mais avec une foi et une attente active, joyeuse, engagée. Aide-nous à préparer le terrain de ton royaume en aimant, en servant, en pardonnant, en annonçant l'Évangile. Et vivre chaque jour comme un pas vers l'éternité. Seigneur, que nos vies hâtent d'une manière mystérieuse ton avènement. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos familles, dans ton Église et dans ce monde. Seigneur, nous voulons être trouvés fidèles lorsque tu reviendras. Affermis notre foi, purifie nos âmes, Seigneur. Purifie nos pensées, purifie nos motivations et remplis-nous de ton espérance. À toi la gloire aujourd'hui et jusqu'au jour où tu reviens, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.